Bienvenue à Tech et Houblon, le podcast qui explore la technologie de l'information et notre passion pour la bière. Je suis votre animateur, Luc Dumoulin, et dans cet épisode enregistré au Ben's Bar, nous plongeons dans le monde fascinant de la technologie de l'information. Des dernières actualités et tendances aux avis d'experts, nous abordons tout, y compris nos recommandations de bière. Que vous soyez un amateur de technologie, de bonne bière ou un auditeur curieux, il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir à chaque épisode. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tech et Houblon. Aujourd'hui, nous continuons sur le sujet des technologies de stockage, plus spécifiquement reliées au flash system et à la sécurité. Je suis Luc Dumoulin, votre animateur, et comme toujours, on allie expertise TI et convivialité autour d'une bonne bière. Pour cet épisode, nous continuons notre discussion amorcée dans le podcast précédent avec Jean-François Lépine, spécialiste technique en centre de données et stockage SAN. Rebonjour Jean-François et merci de te joindre à nouveau à nous.
Bonjour Luc, très content d'être de retour avec toi.
Bon, écoute, on parlait de bière. Dis-moi donc, qu'est-ce que tu as de prévu comme bière aujourd'hui?
Aujourd'hui, ça va être une bière québécoise de la marque Saint-Ambroise. C'est une brute IPA avec un IBU de 40. C'est quand même une bière à 7 % d'alcool, donc on va y aller mollo.
Bon, et moi de mon côté, fidèle à moi-même, ça va être une Guinness. Bon, cheers. Pour commencer le podcast, moi, je pense que j'aurais le goût de te demander, peux-tu nous parler de ce que ça, du lien entre cybersécurité et stockage?
Oui, bien, en fait, dans le stockage, on va plutôt parler de cyber-résilience. Donc, la cybersécurité, c'est ce qu'on fait avant ou pour se prémunir, se prévenir les attaques. Mais en stockage, on vous pousse le concept un petit peu plus loin, ça va vers la cyber-résilience. Donc, qu'est-ce qu'on va faire après le boom ou qu'après une attaque? C'est ça qu'on va être capable de gérer.
Attends une minute. C'est quand tu dis après une attaque. Donc, la cyber-résilience, c'est comment on se relève de ce qui aurait passé dans les mailles de la cybersécurité, c'est ça?
C'est tout ce qu'on peut mettre en place pour se protéger le mieux possible en amont, mais aussi après. Donc, qu'est-ce qu'on va faire si on a une attaque ou d'autres erreurs?
OK, la cyber-résilience. Peux-tu me donner les grandes lignes de à quoi ça ressemble, la cyber-résilience?
En fait, la cyber-résilience, ça va être une méthodologie pour se prémunir contre des attaques ou comme des erreurs humaines aussi. Donc, dans le fond, le premier concept à intégrer là-dedans, c'est chez IBM, Flash System, on l'appelle Safeguarded Copy. Dans le fond, ça, c'est le concept des snapshots. Les snapshots vont être immutables, donc les données à l'intérieur ne peuvent pas être modifiées, ne peuvent pas être changées, ne peuvent pas être altérées. Ça, c'est le premier principe. Ensuite, dans la cyber-résilience, comme je disais, c'est une méthodologie. Fait qu'il y a des méthodes qu'on peut mettre en place pour faire de la ransomware threat detection. Donc, automatiquement, ton flash system va être capable d'aller détecter s'il y a des anomalies qui se produisent à l'intérieur du système.
Anomalie, qu'est-ce que tu veux dire, anomalie?
En fait, le ransomware threat detection, avec les flash core modules qu'on avait parlé dans notre ancien podcast, ouais. Ça utilise l'outil de Storage Insight. À l'intérieur de Storage Insight, il y a machine AI, machine learning, où c'est à cet endroit-là qu'il va y avoir vraiment un genre d'antivirus, on pourrait l'appeler un antivirus. Donc, continuellement, le système va faire des vérifications pour détecter des anomalies. Ce qu'on parle de ransomware threat detection, en fait, ces outils-là vont essayer de détecter des patterns, des changements. Mm-hmm. En fait, le flash system, il est assez intelligent pour savoir comment ton workload se produit dans le temps. OK? Donc, s'il y a quelque chose qui change drastiquement ou s'il y a de l'encryption, ben ça va générer une alerte et le système va être capable de nous avertir en temps presque réel.
OK. Bon, là, tu as introduit un concept là, qui m'est absolument pas familier. Tu as parlé de Storage Insight. Donne-moi un peu plus de détails là-dessus.
Bon, Storage Insight, c'est l'outil cloud d'IBM. Dans le fond, c'est l'outil de monitoring et d'alertage, on va dire, à plus haut niveau. Tu as ton flash system qui fait le premier niveau. Ouais. Le deuxième niveau, c'est Storage Insight, qui, lui, est dans l'outil cloud IBM.
Donc, tu as besoin d'une connexion au cloud en permanence.
Oui, effectivement. Absolument.
Si tu veux en profiter, là.
Exact. Donc, dans le fond, les statistiques sont collectées à l'intérieur des flash core modules qui, lui, passent l'information au logiciel du flash system qui, lui, transfère l'information dans le cloud IBM.
Mm-hmm.
Où c'est là qu'il va se produire le ransomware threat detection.
OK. Donc, on a une composante qui est externe à notre écosystème qui va analyser grâce à l'IA. Ça, c'est la portion IBM.
Absolument.
Question de même, on parle de cyber résilience. Qu'arrive-t-il si, par exemple, le site d'IBM est down? On ne peut pas faire l'analyse avec l'IA dans le Storage Insight.
Exact. Ça pourrait arriver.
Oui.
Donc, l'idée pour un système complet ou mature, on va dire, un client mature, on peut aussi intégrer cette détection-là à des gros outils de cybersécurité comme des SOAR, des SIEM, comme par exemple IBM QRadar ou Elasticsearch, des trucs comme ça. Donc, ça peut s'intégrer dans des outils aussi de cybersécurité qu'un client pourrait avoir dans son environnement.
OK, excellent ça. Puis les informations du SIEM et tout ça, est-ce que ça va d'une quelconque façon être retourné dans l'analyse ou c'est une analyse que le client doit lui-même faire en compensation pour la perte de connectivité, par exemple?
L'idée, en fait, c'est que ton système SOAR va t'avertir qu'il s'est produit un événement. Puis on peut pousser un peu le concept. Non seulement il peut t'alerter, mais au coup, le SOAR pourrait aussi prendre une action, comme déclencher un snapshot. Fermer le logiciel et tout comme ça.
OK. Parce que dans le fond, ce qu'on cherche à faire, c'est éviter qu'une attaque fasse en sorte que notre data commence à être encryptée puis qu'on finisse par le perdre.
Exactement. Donc, automatiquement, un SOAR sera en mesure de dire OK, il faut que je ferme ce système-là ou au minimum prendre un snapshot. Comme ça, on va avoir l'information de qu'est-ce qui se passe à ce moment précis.
OK, excellent. Là, on a mis en parallèle cyber-résilience, cybersécurité. Ce que je comprends, c'est que ta première couche de cybersécurité, c'est les logiciels antivirus qu'on retrouve dans le marché. Par la suite, la deuxième couche, ça va être au niveau de ton storage, accompagné du Storage Insight. J'ai entendu parler de Cyber Vault. Peux-tu me donner un peu de détails sur ce que c'est?
Oui, bien en fait, Cyber Vault, c'est carrément le nom qu'IBM a mis à la méthodologie à mettre en place la cyber-résilience. Donc, c'est un peu une méthode de dire, bon, moi, j'ai besoin de... comme mon premier item, ça va être safeguarded copy. J'ai besoin de mes snapshots immutables. Mon deuxième volet va être mon monitoring. J'ai besoin de Storage Insight ou d'un SIEM et un SOAR qui, lui, va monitorer, m'avertir, m'alerter qu'un problème se passe. On pousse un petit peu plus loin. Mes snapshots, qu'est-ce que je peux faire avec? C'est qu'en fait, disons je fais 3 snapshots par jour ou 24 snapshots par jour. Je pourrais même en faire 256 si je voulais. C'est le maximum possible. Ben, allons-y, mettons, disons un à chaque heure. Donc, 24 snapshots par jour. Je pourrais prendre ces snapshots-là puis les monter dans un environnement de test ou un environnement complètement fermé, sécuritaire, pas dans les réseaux, etc.
Mm-hmm.
Puis avec, j'ai le contenu de mon snapshot, donc j'ai mon data de ce moment-là, donc je pourrais carrément venir monter le système, faire des vérifications, faire des rouler un antivirus, vérifier que tous mes systèmes sont fonctionnels. Donc, si je fais ça à chaque heure de la journée, je peux mettre un checkmark pour dire, bon, ben ce snapshot-là, mon information est valide. Et on continue. Donc, je sais que j'aurai X nombre de copies valides de mes données en cas de besoin.
OK. Mais ça, est-ce que ça prend quelqu'un qui va monter le système, restaurer le snapshot, faire des tests, puis après ça, approuver ces tests-là? Si on en fait à toutes les heures, ça va me prendre du personnel pour
qu'il y ait... Exact. Si on ferait une méthode manuelle, bien évidemment, c'est extrêmement...
exigeant, on va dire.
Exigeant, on va dire comme ça. Mais l'idée, c'est de l'automatiser avec des scripts, avec d'autres logiciels qui existent. Donc, l'idée, c'est d'automatiser ce process-là, de venir monter mon snapshot faire les vérifications, faire le checkmark pour dire, OK, ça c'est valide, puis on recommence. L'idée, c'est de l'automatiser le plus possible. Dans le concept de Cyber Vault, le plus mature on est, dans le fond, c'est quand on a tous les outils en place et la méthodologie pour venir tester nos snapshots au fur et à mesure.
OK. Bon, moi, je me mets dans la peau d'un propriétaire d'entreprise, une PME. La maturité, c'est beau, la cybersécurité, la cyber-résilience, c'est beau, mais je veux dire, ça va me coûter un bras puis un autre pour arriver au degré de maturité que tu viens juste de décrire. Qu'est-ce qui serait une posture de cyber-résilience qui serait suffisamment avancée pour être en sécurité?
À la base, si on vient juste à notre flash system, on veut deux éléments. Nos snapshots immutables, comme en place, ça coûte rien. C'est intégré dans le logiciel de flash system. On met ça en place, c'est hyper facile.
Okay.
Ça nous prend Storage Insight, deuxième élément, pour faire, disons, le ransomware threat detection. Donc, au moins, on a notre premier niveau d'alertage qui est très facile à mettre en place puis qui vient avec le logiciel de flash system de toute façon. Ce qu'il faut faire attention ici, c'est la quantité de données. Je ne veux pas les snapshots. Le snapshot comme tel, c'est juste un pointeur. Donc, ça prend pas d'espace à la base. La capacité va changer dans le temps. Plus le data change par rapport à la source, plus ça va prendre de l'espace disque. Donc là, il faut faire attention. Il y a un maximum d'espace disque qu'on a de disponible dans notre flash system. Donc là, il faut s'assurer de ne pas arriver à 100% de l'espace. Sinon, ben, tout tombe offline. Puis, on va causer plus de problèmes qu'on voulait en régler.
Hey. Ça veut dire qu'on a notre flash system qui est en place, peu importe la capacité qu'on a, il y a une portion qui est inutilisée généralement dans les systèmes, puis c'est là que les snapshots vont s'accumuler. La majorité des environnements vont avoir beaucoup de transactions qui vont se produire au courant de la journée. La conservation des données devrait ressembler à quoi dans ce temps-là?
Ben, en fait, faut toujours voir le safeguarded copy. Comme c'est plus sur le court terme, on va dire. Faut pas la méthode traditionnelle, c'est les backups. Ça existe encore, ça a encore sa place.
Okay.
Si tu veux faire un restore des données qui étaient là v'là un an ou v'là peut-être ouais. six mois,
ouais.
Le backup a toujours sa place. L'idée de Cyber Vault ou Safeguarded Copy, c'est de faire un restore hyper rapidement. En fait, le restore, il est instantané. Surtout que tu fais restore sur ton snapshot, tes données, et voilà, t'es déjà à ton point, ton image que tu étais avant. C'est disponible maintenant. Mais comme ça consomme de l'espace, l'idée, c'est de se poser la question, ben, est-ce que mon data de hier, de v'là trois jours, de v'là une semaine est encore valide? Dans le cas d'une base de données transactionnelle, probablement que v'là un mois ou v'là une semaine, le data, il veut rien dire de toute façon. Fait que c'est là qu'on peut faire l'analyse et dire, OK, moi, je pourrais faire X nombre de snapshots et les conserver une journée, deux journées, trois journées, des trucs comme ça. Quelque chose qui ferait du sens pour faire un restore hyper rapide puis se remettre sur pied. Puis ensuite, s'il y a d'autres données plus d'archivage ou de backup, ben, on prend un vrai backup qui c'est moins important que ça revienne plus lentement.
OK, ouais. Fait que dans le fond, ce que je comprends, c'est que il y a deux choses qui doivent être faites en parallèle. Le backup régulier traditionnel qui sert à ramener l'ensemble de tes données, que ce soit pour les ramener en dev, en pré-prod, en test, peu importe le système, ou même pour remonter ta prod. Puis tu as la version snapshot, hyper rapide, compacte, que tu accumules selon la façon dont tu as déterminé que ça devait être fait. Puis ça, c'est beaucoup plus pour te protéger sur des attaques directement sur ton data pour éviter les ransomware, finalement.
Ça pourrait être des attaques, mais aussi, ça pourrait être juste l'erreur humaine où un client veut faire des patchs. Donc, on peut faire un snapshot, on fait les patchs, il y a un problème. OK, on revient en arrière, on a fait notre snapshot 15 minutes avant. L'erreur humaine, un admin pourrait faire « delete ». Oh, fallait pas. Ben, dans ton snapshot, tu peux faire « restore » automatiquement. Donc, c'est comme pour prévenir les erreurs, pas juste la cybersécurité, en fait.
Je vois. Fait qu'il y a plus... OK, ça a plus de fonctionnalités que juste...
Ça amène plein de possibilités que Tu n'as pas besoin d'aller vers ton backup. En fait, tu as une méthode hyper rapide intégrée dans ton système pour faire un restore hyper rapide.
C'est intéressant. En tout cas, moi, j'avais jamais pensé et conçu ou même imaginé qu'on pouvait faire des snapshots pour autre chose que contrer les ransomware. Mais oui, je viens de comprendre que tout d'un coup, au lieu de revenir à ton backup de tout ton entire system, quand on est dans le mode IBMI, au lieu de ramener ton entire system, ben tu peux juste ramener ton snapshot, puis ça revient là où c'était.
Ben, comme toi, tu travailles plus en développement,
oui.
Disons que je peux faire un snapshot, puis je peux te rendre disponible ces données-là. Et un peu à la demande. Dans le sens que, dans le fond, il y a deux options qu'on peut faire avec les snapshots normalement. C'est soit des clones ou des thin clones. Bon, j'expliquerai pas le concept technique, là. On va dire que c'est un clone. Donc, j'utilise le contenu de mon snapshot. Je te montre l'environnement en développement. Et ben, tu t'amuses avec. Quand tu as fait tes changements, ben, on peut l'éteindre ou je peux utiliser un snapshot plus récent qui date de, disons, d'aujourd'hui ou du lendemain ou de 2 heures plus tard. Puis, automatiquement, je peux te faire un refresh du data. Automatiquement, ça va être le nouveau data de ce snapshot-là, puis tu peux recommencer tes tests, ton développement ou modifier les informations.
Okay.
Donc, c'est hyper intéressant dans le concept de DevOps, de développement, des trucs comme ça. C'est hyper flexible.
J'imagine que si un client a besoin de conseils par rapport à l'utilisation maximale de ce qu'on peut faire avec les snapshots, tu serais une des personnes chez R2I à contacter pour être capable de discuter, analyser, puis voir comment mettre tout ça en place.
Absolument. On l'a fait pour des clients, on le fait à l'interne. Dans le fond, il faut pour un client, il faut bien évaluer son taux de changement. Taux de changement qui va définir un peu combien d'espace on a disponible sur son stockage.
Mm-hmm.
À partir de là, tant qu'on a assez d'espace, assez de capacité dans notre flash system, on peut se permettre l'utiliser de plein de façons.
OK. Tu sais, on a parlé tantôt d'une position mature au niveau de cyber-résilience. Est-ce qu'on a des expériences ou des expertises chez R2I concernant ce type de client-là? Parce que ce n'est pas tous les clients qui sont capables de se rendre à ce niveau de maturité-là. Il y en a qui sont en chemin, il y en a qui n'ont juste pas les moyens. Mais est-ce que nous, on a eu la chance de travailler dans des environnements comme ceux-là?
Oui, absolument. On l'a fait pour quelques clients. Ce qu'on a mis en place, dans le fond, c'est... carrément safeguarded copy 2.0, on va dire, pour les snapshots. Ensuite, on a mis en place un environnement coquille où le client peut monter les snapshots puis carrément démarrer le serveur, vérifier l'information, faire les tests nécessaires. Donc oui, on l'a déjà mis en place.
C'est intéressant que R2I ait développé cette compétence-là, parce que j'imagine que c'est pas une compétence qui doit se retrouver facilement dans le marché.
Ben, en fait, c'est que c'est un nouveau concept dans les flash systems. Ben, ça fait quelques années déjà, mais c'est relativement nouveau. Donc, ça prend les nouveaux modèles, ça prend le bon niveau de firmware pour pouvoir mettre ça en place. Nous, on l'a intégré, on l'a utilisé, puis on a été capable aussi de l'intégrer chez nos clients, chez qui utilisent le flash system.
Puis j'imagine qu'on suit toutes les formations qui sont disponibles pour être sûr que nous soyons toujours à la dernière page de ce qui se produit au niveau des améliorations et tout ça, là.
Ben, tu vois, moi, personnellement, oui, je fais beaucoup de formations continues selon, il y a des webinaires IBM, mais j'ai eu la chance d'aller... à IBM Tech Exchange, là, la grosse conférence technique IBM, les deux dernières années, là, en 2023 et 2024, là, j'ai pu aller à Las Vegas là, sur ces conférences techniques-là.
Mm-hmm.
Donc, j'ai eu la chance de rencontrer des experts techniques mondiaux. Ça, c'était super intéressant. Donc, j'ai pu discuter avec les experts mondiaux et recevoir les formations, les conférences. C'était hyper intéressant. J'en ai gagné une expertise beaucoup plus fine que ce que j'avais avant.
OK, bien, en conclusion, Jean-François, tu sais, je comprends que la cybersécurité, tout le monde est gagné à ça maintenant. Tout le monde comprend que c'est nécessaire. La cyber-résilience, On en entend parler, mais je suis pas convaincu que ça a vraiment atteint son apogée au niveau de la compréhension puis des investissements. Qu'est-ce que tu aurais à dire à nos clients en terminant?
Ben, en fait, comme tu sais, le taux de cyberattaque est tout simplement en augmentation phénoménale selon les chiffres qu'on voit. L'idée, c'est de se protéger en amont. Si on a un flash system, il n'y a rien qui nous empêche de mettre en place la méthodologie CyberVault. C'est pas un effort immense à mettre en place. Donc, l'idée, c'est tout simplement de se préparer en amont au cas où ça arrive.
C'est un peu ça. C'est ça qui fait que les gens sont moins tentés. C'est au cas où ça arrive. Puis, il y a souvent le syndrome du « ben moi, ça m'arrivera pas. Il n'y a pas de chance que ça se produise. Je suis pas une compagnie qui est intéressante pour les fraudeurs ou les hackers. » Mais dirais-tu que l'effort à investir n'est pas si grand pour une protection, une assurance, finalement, d'être capable de récupérer rapidement les affaires?
Exactement. Donc, l'outil existe, la méthode existe, c'est quand même facile à mettre en place. Donc, il n'y a rien qui empêche un client aujourd'hui de le faire. Dans un monde idéal, comme on disait tantôt, la compagnie la plus mature l'a déjà tout mis en place, mais si ce n'est pas le cas, c'est pas tant d'efforts non plus. Il ne faut pas s'imaginer que c'est extrêmement complexe. C'est quelques étapes à mettre en place, mais ça vaut vraiment valoir la peine.
Eh bien, voilà qui conclut cet épisode de Tech et Houblon. Merci encore une fois, Jean-François, pour ta participation. À vous, fidèles auditeurs, merci de votre écoute et demeurez à l'affût de nos prochains podcasts où nous couvrirons d'autres sujets reliés au monde des technologies de l'information.